Chapitre 7, et nous lirons à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Que le Seigneur puisse bénir.
Et grâce à Dieu, ici, une bonne semaine. Nous avons chaque soir ouvert la parole de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour ce qui nous a permis de partager. Nous étions venus, en effet, comme l'a dit Jean, pour des conférences publiques. Mais compte tenu de l'auditoire, le programme s'est transformé en semaine de réveil. Et je pense que cette semaine, après les échos que j'ai eus des uns et des autres, après la collation d'hier soir notamment, que certains ont profité de cette semaine. Je remercie le cœur qui a été présent chaque soir pour agrémenter ce moment de réflexion que nous avons eu. Je remercie ceux qui sont venus du 19e, n'est-ce pas Suzy? Je parle de Suzy parce qu'elle nous a aussi, elle a animé aussi un moment de nos rencontres le soir. Merci aussi pour les musiciens, notre pianiste qui était là chaque soir, qui fait que ces rencontres ont été bénéfique pour ceux qui y étaient. Si je souhaitais que Dieu vous éclaircisse les yeux, beaucoup d'entre vous ne comprendraient pas ce que je dis. Parce que une bonne partie d'entre vous n'a pas été là. Et pourtant, nous avons tous besoin d'avoir les yeux éclaircis. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, peut-être que ceux qui étaient là vous diront de quoi il s'agit. Si je vous demandais d'être comme le palmier, peut-être que beaucoup d'entre vous ne comprendraient pas de quoi je parle. Je remercie le Seigneur de ce qu'il nous a enseigné pendant cette semaine, en nous invitant à être comme le palmier, puisque le juste, dit le texte biblique, psaume 92, les justes croissent comme le palmier. Mais Ce matin, nous n'aurons pas le temps de faire une revision, une récapitulation. Et j'aimerais simplement vous parler de la part du Seigneur et vous inviter à faire un demi-tour. Un demi-tour après, d'après un récit de la parole de Dieu. La science fait de grandes choses. Nous le voyons tous les jours avec les moyens de communication dont nous disposons, téléphone, Internet, etc., avec les possibilités de se déplacer d'un point à l'autre de la planète en ont un record. Mais il y a une chose que la science ne pourra pas faire et qu'elle ne fera pas, c'est d'empêcher la mort. Elle ne le fera pas parce que la mort est la conséquence du péché et que seul Jésus peut y mettre fin. Alors que je préparais ce programme, le récit de la résurrection du fils de la veuve de Naïn, qui vient d'être lu dans l'évangile de Luc, m'est venu à la pensée comme un flash. Je le connaissais, je l'avais lu à plusieurs reprises, mais je me suis empressé de le relire. Je l'ai relu à plusieurs reprises, comme si le Seigneur voulait me dire quelque chose à travers ce récit. Cette lecture m'a conduit à la réflexion que j'aimerais partager avec vous ce matin. Aussi, je nous invite à relire ce texte ensemble. Luc 7, à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Si je vous donnais la parole pour dire ce que vous savez de Jésus, chacun donnerait, j'en suis sûr, une quantité de qualité de Jésus. Certains mettraient en évidence son amour, d'autres sa puissance, d'autres sa patience, d'autres son humilité, d'autres ses qualités de père, d'autres sa capacité à pardonner, etc. En fonction des expériences ou de la relation que chacun a avec lui. Le récit des funérailles du fils unique de la veuve n'est pas une parabole où il faut interpréter ou chercher à comprendre le sens des choses qu'elle contient. Il s'agit du récit d'une histoire vraie. Il est difficile de mettre en évidence une des qualités du Christ plutôt qu'une autre, du fait que le Seigneur était tout à la fois et exprimait en permanence les qualités que nous lui connaissons en fonction des situations auxquelles il était confronté. Mais en lisant et en relisant cette histoire, j'ai été impressionné par une des qualités de Jésus dont on ne parle pas souvent et sans laquelle cette histoire ne serait pas dans le texte biblique. Je parle de sa sensibilité. Et c'est de cette qualité de Jésus dont j'aimerais vous parler ce matin. La sensibilité est cette qualité qui conduit à être facilement ému, touché par la situation à laquelle on est confronté. Le mot « sensibilité » n'exprime pas cependant toute la force de cette qualité remarquable de notre Seigneur. Je pense que Luc avait aussi du mal à définir la sensibilité de Jésus. si bien qu'il associe l'émotion et la compassion. Et dit au verset 13 que Jésus fut ému de compassion. Notons qu'en d'autres circonstances, les autres disciples ont eu la même difficulté à parler de la sensibilité de Jésus et ont aussi associé son émotion et sa compassion en utilisant la même formule « ému de compassion ». Voyant la foule qui accourait vers Jésus avec ses malades, ses aveugles, ses boiteux, ses estropiés de la vie, Matthieu dit dans Matthieu 9, verset 36, que voyant la foule, il, Jésus, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ailleurs, c'est un lépreux qui vient se jeter aux pieds de Jésus, lui disant, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Et Marc dit au verset 41 que Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux. » Pur. L'émotion et la compassion sont deux sentiments qui peuvent être compris comme de la pitié. On peut être ému, éprouver de la pitié face à une situation et continuer son chemin sans rien faire pour celui ou celle ou ceux qui sont impliqués dans cette situation. Dans la parabole du Samaritain, par exemple, que nous connaissons, le sacrificateur et le lévite ont éprouvé de la pitié pour le blessé, blessé à demi-mort au bord du chemin. Mais ils ont continué leur chemin. La formule émue de compassion, c'est plus que cela. Il s'agit davantage d'empathie. L'empathie, c'est la capacité de s'identifier à une personne, dans ce qu'elle ressent, la capacité de prendre part à sa douleur, à sa souffrance. On est ému de compassion lorsqu'on arrive à se mettre dans la peau de l'autre, lorsqu'on est capable de s'identifier à la situation de l'autre, lorsqu'on arrive à ressentir ce que l'autre ressent dans une circonstance précise et d'y répondre comme on aimerait qu'un autre le fasse pour soi. Jésus ressentait la peine des autres. Il ressentait leur souffrance. Comme s'il la vivait, il vivait la même situation qu'eux. Il ressentait la souffrance du malade, la solitude du lépreux, la douleur de celui qui était dans le deuil, la peine de celui ou celle qui était délaissé ou méprisé. Et souvent, quand on lit le récit qui retient notre attention ce matin, une grande majorité de croyants se dit impressionnée par le pouvoir de Jésus, par la puissance avec laquelle il met fin aux détresses humaines et grâce à laquelle il a ressuscité le fils de la veuve. Mais j'aimerais reconsidérer les choses avec vous ce matin. La scène se passe à Naïn, ou plutôt à la porte de la ville de Naïn. Un village de Galilée appelé aujourd'hui En-Nassira, un bourg situé à environ 10 kilomètres au sud-est de Nazareth. Jésus se rendait donc à Naïn, accompagné comme d'habitude par une foule. Et en arrivant à la porte de la petite ville, il vit un cortège funèbre qui quittait la ville et se rendait au cimetière qui se trouvait, comme toujours en ce temps-là, en dehors de la ville. C'était les funérailles du fils d'une veuve. La mort d'un être humain est une épreuve. Celle de son enfant l'est encore plus, car la logique voudrait que les parents meurent avant leurs enfants. Mais le fait qu'il s'agisse d'un fils unique et que sa mère soit veuve rend l'épreuve encore plus grande. Quelle détresse! Quelle détresse pour cette femme. Après avoir enterré un être chéri, son mari, le texte ne dit pas depuis combien de temps, elle refaisait le même chemin, cette fois, pour enterrer son fils unique. Quand on parle de famille, on a tendance à parler beaucoup du couple, des parents. Mais quand on connaît la situation des veuves, des mamans seules, on peut imaginer que depuis la mort de son mari, cette femme n'allait pas enterrer seulement son fils. Elle allait enterrer aussi celui dont elle recevait l'affection dont elle avait besoin. Elle allait enterrer sa seule chance de satisfaire à ses besoins matériels. Elle allait enterrer son soutien moral dont elle avait besoin, ce qui désormais la réduisait à la solitude et à la pauvreté. Nous pouvons imaginer les difficultés auxquelles cette femme allait être confrontée avec ce deuxième deuil. Qu'allait-elle devenir sans personne pour l'aider? Quelle allait être désormais sa vie? Et nous pouvons imaginer sa peine et tous les pourquoi qui se posaient à elle. Pour nous permettre d'imaginer la scène, Luc dit au verset 11 que les disciples et une grande foule faisaient route avec Jésus vers Naïn. Et au verset 12, qu'il y avait beaucoup de gens de la ville qui ont accompagné la femme à l'enterrement de son fils, ce qui laisse comprendre qu'elle était appréciée de ses voisins et de ses amis. Beaucoup de personnes, tout juste capables de pleurer, de lui adresser quelques paroles de condoléances, mais une foule incapable d'apaiser sa souffrance et encore moins de lui rendre le seul être qu'elle avait encore dans ce monde. En plus de ces deux cortèges qui se dirigeaient l'un vers le cimetière, l'autre vers Naïn, il y avait aussi beaucoup de personnes sur le bord de la route, des personnes qui se recueillaient au passage du cortège funèbre, sans rien pouvoir faire non plus pour apaiser la souffrance de cette femme, et d'autres qui attendaient l'arrivée de Jésus. Et souvent, dans les évangiles, nous voyons que la foule est un obstacle entre Jésus et ceux qui ont besoin de lui. Souvenons-nous qu'à Jéricho, la foule qui suivait Jésus reprenait pour les faire taire deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule était un obstacle à leur rencontre avec Jésus. Souvenons-nous aussi que Zachée ne pouvait pas arriver à Jésus à cause de la foule. Il a dû monter sur un arbre pour le voir passer. Souvenons-nous encore que la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans avait du mal à approcher Jésus à cause de la foule. Arrivée à la porte de la ville, les deux cortèges se croisent. D'un côté, celui de la mort, qui va de la ville pour se rendre au cimetière, avec à sa tête le porteur, les porteurs d'une victime impuissante. Et de l'autre, le cortège, celui de la vie, qui va vers la ville, ayant à sa tête le prince même de la vie. Avec ces deux cortèges, nous sommes au cœur même de nos conditions humaines. Un jour, nous sommes dans le cortège de la joie, et un autre jour, c'est le cortège des larmes. Et souvent, il arrive que les deux cortèges se croisent et même se confondent. Un jour on pleure, un jour on rit. Un moment on rit, un moment on pleure. Or ici, malgré la foule, malgré cette foule, je devrais dire malgré les foules, puisqu'il y en avait trois, celle qui accompagnait Jésus, celle qui composait le cortège funèbre et celle qui était amassée sur le bord de la route. Malgré cette foule qui est un obstacle à la rencontre avec Jésus, Jésus arrive à voir la femme. Il n'ouvre pas simplement la femme, que j'imagine, suivant le cercueil, la tête baissée sous le poids de la tristesse, de la peine. Il voit ses larmes. Et au-delà de ses larmes, il voit sa solitude, sa souffrance, sa profonde détresse et son cœur. est touché par la situation de cette femme. Sa peine, sa tristesse est visible, au point que l'évangéliste dise au verset 13 qu'il fut ému de compassion pour elle. Jésus ne reste pas indifférent à notre souffrance, à aucune souffrance. Touché, ému par la souffrance, ému par la détresse de cette veuve, il s'approcha d'elle. Et ses premiers mots auront directement à faire avec sa peine, avec sa souffrance, à son état d'âme. Il lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. La femme fut certainement surprise d'être approchée par cet homme qu'elle ne connaissait pas. Et même si elle l'avait déjà vu, elle ne pourrait peut-être pas le reconnaître à cause de ses larmes. Souvenez-vous de Marie, la sœur de Marthe et Lazare. Elle connaissait bien Jésus. Or, souvenez-vous que devant le tombeau vide, elle n'a pas pu le reconnaître à cause de ses larmes. Cette veuve qui allait enterrer son fils unique a dû être encore plus étonnée d'entendre cet inconnu lui demander de ne pas pleurer. Comment ? Comment ne pas pleurer en pareille circonstance ? J'imagine que la femme a dû lever la tête et regarder celui qui, en pareille circonstance, lui demandait de ne pas pleurer. Elle aurait pu dire, « J'aurais aimé vous voir à ma place. De quoi vous mêlez-vous » Elle aurait pu justifier ses larmes et dire à l'inconnu, « Monsieur, c'est mon fils qui est mort, mon fils unique. » Car elle ne connaissait pas l'homme qui s'était approché d'elle. Mais je pense qu'au ton de la voix, et que pendant le court instant où leurs regards se sont croisés, elle avait compris que cet homme était en totale empathie avec elle. Elle avait compris que cet homme avait non seulement vu ses larmes, mais qu'il avait entendu toute la souffrance qu'elle exprimait et la partageait parce qu'elle ne dit rien. Vous imaginez-vous à la place de cette femme ? Allant enterrer votre fils, que vous pleurez et que quelqu'un vous dit ne pas pleurer. Vous imaginez ça, vous ? Mais la femme avait compris à travers le court regard, l'échange de regard avec Jésus, que le ne pleure pas de Jésus n'était pas synonyme de ça ne sert à rien de pleurer, mais de n'aie pas peur, ne crains rien, fais-moi confiance. Tout n'est pas fini. Tout peut changer aujourd'hui. Ne pleure pas. La vie est plus forte que la mort. Le texte dit, sans transition d'ailleurs, au début du verset 14, que Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Avant de vous parler de l'action de Jésus, permettez que je vous dise que ce qui est traduit dans nos Bibles par cercueil n'était qu'un brancard comme sur lequel on portait le mort. Vous avez une illustration à l'écran. Les Juifs, en effet, n'utilisaient pas de cercueil, car on ne mettait pas leur mort dans la terre. Le mort était habillé et vêtu comme dans la vie terrestre, recouvert d'un linceul et déposé dans des chambres funéraires taillées dans le roc, à l'exemple de celle où Lazare, où était Lazare, ou même celle de Joseph, où on avait mis le corps de Jésus après l'avoir descendu à la croix. J'ai eu l'occasion de voir cela à Madagascar. Vous avez une photo à l'écran où le corps est posé dans ce coffre en bois afin de le transporter. Et les visages ont volontairement été masqués, mais c'était pour vous montrer un peu comment le mort est mis dans un linceul. Et lorsqu'il est, on va le mettre dans le tombeau, il est mis tel qu'il est et non pas dans un cercueil. Pourquoi je vous dis cela ? C'est pour nous aider à comprendre pourquoi l'évangéliste peut dire que le mort s'assit après que Jésus a touché le cercueil. S'il est dans un cercueil fermé, scellé, c'est très difficile, n'est-ce pas ? Mais ça nous aide à comprendre pourquoi le texte peut dire que le mort s'est assis. Notons que Luc aurait pu dire simplement que Jésus toucha le cercueil. Mais il utilise deux verbes. Et s'il utilise les deux verbes « s'approcher » et « toucher », c'est pour nous aider à comprendre qu'il était possible de l'empêcher d'accomplir l'une ou l'autre de ses actions, et même les deux. Voir Jésus s'approcher du cercueil a certainement surpris non seulement la femme, mais aussi ceux qui étaient en charge du cortège. Car dans le contexte religieux de l'époque, personne n'osait s'approcher d'un mort, surtout s'il s'agissait d'un homme de Dieu, puisque selon la loi, il se rendait impur. Nous voyons cela dans le Lévitique, chapitre 21, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort. » Verset 11, « Il n'ira pas vers un mort, il ne se rendra point impur ni pour son père, ni pour sa mère. » Et cette loi d'impureté qui est reprise dans le livre des Nombres ne concernait pas uniquement les prêtres. Les gens du peuple étaient aussi soumis à la même loi et étaient aussi impurs s'ils touchaient un mort. Dans Nombres 19, au verset 11, nous lisons « Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. » Au verset 13, celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas sous le tabernacle de l'Éternel, celui-là sera retranché d'Israël. Aussi, ce que Jésus fait et que nous lisons comme une histoire simple, n'allait pas de soi. Et en le voyant s'approcher du cercueil, beaucoup l'ont trouvé téméraire. Et il est probable que certains auraient voulu l'arrêter. Car pour la majorité de ceux qui étaient témoins de la scène, cet homme ne devait être ni un sacrificateur, ni un homme de Dieu, à moins qu'il fût fou, pour s'engager délibérément dans une action qui le rendrait impur, et en plus, pour quelqu'un qui ne le connaissait même pas. Le texte ne permet pas de voir l'étonnement des personnes, ni les regards atterrés de ceux qui portaient le corps, mais heureusement qu'ils ne l'ont pas arrêté. Quand nous considérons les mouvements décrits dans le texte, nous voyons au verset 14 que c'est à ce moment précis, au moment où Jésus va toucher le cercueil, que ceux qui le portaient se sont arrêtés. Relisons ça au verset 14. Luc 7, verset 14. Il s'approcha, toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et quand Jésus toucha le mort, ceux qui le portaient ne firent plus un seul pas. Ils ont été figés sur place. Il a dû y avoir un silence pesant à ce moment-là. Chacun attendant pour voir ce qui allait se passer, parce que personne ne savait que celui qui s'était approché et qui avait touché le corps avait le pouvoir sur la mort. Et dans ce silence, une voix se fait entendre, celle de Jésus, qui s'adressant au mort lui dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et au son de cette voix, le mort s'assit et se mit à parler. Heureusement que personne n'a empêché Jésus d'intervenir. Et bien que ce miracle soit extraordinaire, c'est surtout son sens qui retient mon attention. Et ce sens, c'est que quand Jésus intervient dans une situation, quelle qu'elle soit, c'est pour relever, c'est pour remettre debout, c'est pour remettre en mouvement, c'est pour redonner la vie. Je ne sais pas ce que le jeune homme ressuscité a dit. Peut-être a-t-il demandé ce qu'il faisait assis, enveloppé de bandes sur son brancard. Peut-être a-t-il demandé mais pourquoi tous ces gens étaient debout autour de lui. Peut-être a-t-il demandé à sa mère mais pourquoi tes yeux sont rougis par les larmes. Je ne sais pas. Mais on a dû de toute façon lui expliquer que la mort l'avait enveloppé, ligoté, et que cet homme qui se trouvait là, en face de lui, l'en avait libéré. On a dû de toute façon lui expliquer qu'il était mort et que cet homme, Jésus, l'a ramené à la vie. J'ai dit que je ne savais pas ce que le jeune homme ressuscité avait pu dire. Mais je ne sais pas non plus quelle fut la réaction de ceux qui faisaient partie du cortège. Il nous arrive de lire ce texte, comme tant d'autres, avec un certain détachement, comme si nous lisions l'histoire. Mais quelle serait notre réaction si nous étions là? Qu'aurions-nous fait en voyant le mort qui revient à la vie et qui s'assied et qui se met à parler? J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous seraient partis en courant. Oui ou non? Quand un enfant qui était perdu ou qui avait été enlevé et retrouvé, la première réaction des parents, de la mère surtout, est de prendre son enfant dans ses bras, de le serrer contre elle. Un peu comme le père de la parabole du fils prodigue. Or, ici, rien de tout cela. Une lecture attentive avec un peu de sensibilité nous permet de comprendre la gêne de s'approcher du ressuscité, même pour la maman. Le texte dit d'ailleurs, à la fin du verset 15, Luc 7, verset 15, que c'est Jésus qui le rendit à sa mère. Et en lisant cela, on a le sentiment que la mère manifestait une certaine hésitation à prendre son fils dans ses bras. Alors, Jésus lui dit, « Tiens, prends-le, c'est ton fils qui était mort et qui est revenu à la vie. » Je suis émerveillé devant le pouvoir de Dieu qui ressuscite le mort. Mais ce qui suscite chez moi le plus d'admiration, c'est sa profonde compassion face de la douleur. C'est la profonde sensibilité d'un Dieu ému par les larmes d'une mère. Quand je pense que les larmes d'une mère conduisent le Seigneur à s'arrêter, à oublier pendant un moment ses plans de la journée, je me dis que si les larmes ont suscité tant de compassion chez lui, il en est de même pour chacun de nous, et particulièrement pour vous, maman seule, qui êtes là ce matin. Il y a des mamans seules ici ce matin? Est-ce qu'il y a des mamans qui sont seules avec leurs enfants ce matin ici? Des mamans qui sont seules, qui n'ont pas de mari avec elles? Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Oui, le Seigneur agit avec vous comme il a agi avec cette femme seule, avec son enfant. Il a compassion de vous. Il entend vos souffrances, il entend vos pleurs, il les voit. À quoi bon un Dieu qui serait tout puissant, un Dieu qui aurait tout pouvoir, même sur la mort, s'il était insensible à nos souffrances? Ce n'est absolument pas le cas du Seigneur. Il est fort et puissant, mais il est aussi miséricordieux et compatissant. Il fut ému de compassion par la douleur d'une femme qui ne faisait pas partie ni de sa parenté, ni de ses amis. Il peut aussi être touché et ému par nos souffrances. L'évangéliste donne au verset 16 les effets de l'action de Jésus sur la foule. Et elle dit, « Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a paru au milieu de nous et Dieu a visité son peuple. » Grâce à l'intervention de Jésus, la foule qui quittait la ville en pleurant pour aller au cimetière, accompagner le mort dans sa dernière demeure, comme on dit généralement, a fait demi-tour, et pas seulement un demi-tour géographique, en retournant dans la ville chacun chez lui, mais aussi un demi-tour intellectuel, moral et spirituel. Intellectuellement, ils ont compris qu'ils allaient tous avoir la même destinée, suivent le même chemin que le cortège funèbre, de la maison au cimetière. Même destination, maison, cimetière. Mais qu'un homme, Jésus, avait le pouvoir de modifier cette trajectoire. Ils en avaient eu une preuve indiscutable. Ils savaient maintenant qu'il y avait quelqu'un qui avait le pouvoir de changer leur destinée. Moralement, ils ne pouvaient pas ne pas désirer vivre en relation avec cet homme qu'ils ne connaissaient pas encore, mais qui pouvait leur redonner la vie. Ils en étaient sûrs. J'ai dit qu'ils ne le connaissaient pas encore puisqu'ils parlent de lui en tant que grand prophète et ne savent pas que c'était Dieu lui-même qui s'était manifesté à eux. Spirituellement, les choses sont claires, puisque Luc dit qu'ils étaient assis, saisis de crainte et glorifiaient Dieu. En écoutant le témoignage de Luc, il est difficile de ne pas penser à la vision que l'apôtre Jean eut de l'ange qui, dans Apocalypse 14, proclamait aux habitants de la terre, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Grâce au demi-tour que Jésus leur avait permis de faire à la porte de la ville, et bien avant que l'apôtre Jean eût cette vision, les habitants de Naïn exprimaient leur crainte de Dieu et le glorifiaient. Ce récit, qui avait commencé dans les larmes, se termine dans la joie. Grâce à l'intervention de Jésus, deux personnes sont revenues à la vie. Le Fils, bien entendu, mais aussi la mère qui peut envisager maintenant un avenir rassurant. Elle ne sera plus seule. Luc ne dit rien concernant la maman et son fils. Je pense qu'ils font partie de ceux qui glorifiaient Dieu. Alors, j'ai essayé d'y réfléchir et d'imaginer ce qui a bien pu se passer, en me mettant tantôt à la place de l'un, tantôt à la place de l'autre. Je pense, premièrement, que le jeune homme a dû vivre une vie nouvelle, mais vraiment nouvelle, reconnaissant que la vie dont il jouissait désormais était un don merveilleux de Jésus. Il vivait, en fait, non pas de la vie que lui avaient donnée son père et sa mère, mais de la vie que lui avait donnée Jésus. Et j'ai l'impression qu'il ne pouvait plus vivre sans penser à celui qui lui avait fait don de cette vie. Bon nombre d'entre nous, et moi-même d'ailleurs, avons aussi vécu dans une certaine mesure la même expérience que ce jeune homme. Nous n'étions pas morts physiquement pour être ressuscités comme lui, mais nous étions morts spirituellement. Et Dieu nous a aussi ramenés à la vie par Jésus-Christ. C'est en effet ce que dit l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, chapitre 2. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Notre vie est-elle une vie de reconnaissance à Dieu pour cette nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ? Comment l'exprimons-nous? L'intervention de Jésus a eu deuxièmement un effet sur la mère. Ses pleurs ont été changés en joie et elle a retrouvé l'espoir d'une vie meilleure. Avec le temps, elle a certainement vécu aussi une vie en relation avec celui qui était intervenu si puissamment dans sa vie. Jésus peut aussi, aujourd'hui, changer nos larmes en joie. Jésus peut changer nos larmes en joie si nous lui donnons la possibilité d'intervenir dans notre vie. Luc termine le récit en disant, au verset 17, que cette parole sur Jésus, c'est-à-dire ce que Jésus avait fait, se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Et si cette histoire nous parvient aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de nombreuses situations où un demi-tour est nécessaire, des tas de situations dans la vie où un demi-tour est nécessaire, voire indispensable, des tas de cortèges qui vont vers le cimetière et qui, avec Jésus, peuvent faire demi-tour. Je pense à tous ces cortèges mortuaires provoqués par la maladie, l'alcool, la drogue, les jeux dangereux, les attentats, les suicides, les guerres, etc., et même la mort naturelle. Cortèges mortuaires qui ne sont pas sous notre contrôle. Et je me dis qu'il est temps que Jésus revienne pour mettre fin à tout ce lot de souffrance. Mais il y a d'autres cortèges mortuaires sur lesquels nous avons le choix. Des cortèges mortuaires sur lesquels nous avons le pouvoir de décision. Je pense à tous ceux qui sont en train d'enterrer la relation enrichissante, la relation de foi qu'ils entretenaient avec Dieu, en s'étant égarés ou en s'engageant dans une relation contraire à la volonté de Dieu, que ce soit au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. J'aime à leur dire qu'une rencontre avec Jésus peut leur permettre de faire demi-tour. Et si cette rencontre avait lieu maintenant? Je pense aussi à toutes les situations conjugales qui vont de la maison au cimetière. Les statistiques disent qu'un mariage sur deux environ fait naufrage. Et il est possible qu'il y ait parmi nous ce matin des couples, des conjoints qui sont en train d'enterrer leur vie conjugale. Ou peut-être simplement la relation amoureuse, affectueuse qu'ils avaient au début. Des chrétiens qui vivent une vie conjugale en péril, je dirais. En péril. Une vie conjugale agonisante. J'aimerais leur dire ce matin qu'une rencontre avec Jésus peut tout changer. Jésus peut intervenir et leur permettre de faire demi-tour. Et si cette rencontre avait lieu maintenant? Je pense à tous ceux qui, tout simplement, ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie, à tous ceux qui souhaitent ou aspirent à une vie meilleure. Un demi-tour est possible avec Jésus. Jésus, qui a changé l'eau en vin au mariage de Cana, pour permettre qu'ils se poursuivent dans la joie. Jésus, qui a permis au convoi mortuaire de Naïm de changer de route, peut aujourd'hui changer le cours de votre mariage, changer le cours de votre vie tout court. Il veut intervenir et s'approche de vous ce matin. Entendez sa voix qui vous dit « Ne pleure pas. » Ne pleure plus parce que ce mariage qui t'a été donné pour la vie, pour la joie, pour rire et pour aimer, tu peux le revivre aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus veut rendre votre mariage, votre vie familiale, votre vie ecclésiale heureuse, vivante. Il veut vous mettre debout et faire que vous soyez des artisans de sa réussite. Ne pleure plus, dit-il à chacun des conjoints ici présents ce matin. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas mourir. Fais-moi confiance. Je suis là, je te vois, je t'entends, je viens à ton secours. N'empêchez pas Jésus d'intervenir dans votre mariage en pensant que vous êtes assez grand pour savoir ce que vous avez à faire. Ne restez pas dans le cortège de ceux qui pleurent, de ceux qui se dirigent vers le cimetière. Faites demi-tour en rejoignant le cortège en tête duquel se trouve celui qui est le prince même de la vie. Puissons-nous entendre cet appel ce matin et faire avec Jésus un demi-tour vers une vie nouvelle, vraiment nouvelle,